Bienvenue à vous. Bienvenue les enfants. Bienvenue les parents. Bienvenue les grands-parents. Bienvenue tous les autres. Voici venu le temps de reposer, de poser à nouveau nos vies dans un souffle, une douceur, un élan. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre intériorité, à notre âme, c'est-à-dire à notre désir d'être vivant, à notre désir de nous ouvrir à ce souffle qui vient vers nous. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière lorsque nous nous tournons vers Dieu et à notre conscience qui nous permet de cheminer dans la vie. Voici venu le temps de respirer au large, au frais, au vent, au souffle qui nous porte les uns vers les autres et qui nous rassemble les uns avec les autres, que nous soyons en présence dans ce temple ou à distance, par le moyen des réseaux sociaux. À vous tous, la grâce et la paix de Dieu sont avec vous ce matin. Et je vous invite à prier. Nous voici, Éternel, pour nous mettre à l'écoute de ta parole qui nous sollicite, qui nous appelle à vivre vrai. Nos fragilités demeurent, mais nous ne craignons pas de nous perdre, car tu te tiens tout près de nous, si près de nous, et tu nous tiens fraternellement les uns avec les autres. Amen. Nous nous levons pour chanter le premier des spontanés. Nous restons debout pour le temps de la louange. Nous te louons, Éternel, pour le Christ, qui n'a jamais donné de justification au mal, mais qui s'est, en lieu et place de tout discours, exposé à la souffrance humaine. Nous te louons, Éternel, pour le Christ qui s'est affranchi des prisons de nos discours, pour vivre dans les limites que pose un corps, le vertige de l'insécurité. Nous te louons, Éternel, pour le Christ qui a supporté la déchirure de la vraie compassion, qui laisse à nos douleurs l'espace pour s'exprimer, sans nous pousser dans les bras d'une consolation préfabriquée. Nous te louons, Éternel, pour le Christ de délicatesse, qui a pour nos blessures le respect d'un blessé, et qui ouvre dans le même temps le cercueil des jours où nous voulons nous enfermer. Nous te louons, Éternel. Amen. Et je vous invite à chanter au psaume 138, « Que tout mon cœur soit dans mon chant ». Nous chantons les trois strophes du psaume 138. « Vous pouvez vous asseoir, sauf les enfants, qui vont regagner leur salle pour leur séance de ce matin. Et pour le groupe d'école biblique, ce sera une séance dans laquelle ils entendront l'histoire de la réconciliation de Jacob et d'Ésaü, et comment les deux frères ont fait la paix. Et nous écouterons la volonté de Dieu pour nos vies à travers ces mots du pasteur Charles Wagner, des mots, un extrait d'une de ses prières. Déjà tu m'aimes, puisque je vis. Ton aile me couvre. Je suis encore de la nuit, mais de la nuit où s'élabore une aube. Je suis encore incertain, et déjà tu m'es certain. Mon devenir est tout baigné de ton éternité. Si je m'ignore, tu me connais, et cela me suffit. Et je suis heureux d'être un passant, puisque tu me conduis par la main, toi qui demeures. Amen. Recueillons chacun et ensemble dans la prière de confession. En toi, Dieu bienveillant, le solitaire éprouve l'attention, l'angoissé trouve un appui. En toi, le blessé rencontre un soignant, le repentant celui qui pardonne, et l'accablé une compagnie. En toi, l'avare découvre un mendiant, le découragé un élan, et le légaliste, un transgresseur de loi. Alors, si maintenant je veux dire, pardonne-moi. Si maintenant je veux dire, aide-moi. Si maintenant je veux dire, sauve-moi, je peux le dire en toute confiance. Amen. invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon. Au fondement de tout être, souffle un nom qui décèle l'avenir, une mémoire sauvée de l'oubli, une liberté à inscrire au singulier de chaque visage. Et c'est de là que nous venons, c'est de là que nous renaissons et ressuscitons déjà, de ce souffle qui dit non à l'aliénation comme à la capitulation. Voilà notre vraie filiation qui nous porte à être des éternellement vivants. Amen. Et nous chanterons au cantique 220. Viens, Saint-Esprit, Dieu créateur. Numéro 220, nous chantons les quatre strophes. Nous prions avant de lire dans les Écritures. Éternel, par ton esprit vivifiant, préserve-nous d'être pétrifiés par nos propres certitudes, engourdis dans nos chères habitudes, limités par nos propres intérêts. Plonge-nous tout entiers dans le courant de ta parole, afin que nous goûtions la vie que tu donnes et le déploiement de sa saveur en écho d'éternité. Plonge-nous tout entiers dans le courant de ta parole, afin de nous entraîner au-delà de nos propres horizons. Amen. Nous lirons ce matin dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, les versets 16 à 21. Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé, et il se rendit à la synagogue selon sa coutume le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il commença à leur dire : « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » C'est donc ainsi que l'évangéliste Luc met en scène la prise de parole de Jésus à la synagogue de Nazareth. Ce n'est pas la première fois que Jésus parle devant une assemblée, car Luc signale qu'avant de se rendre à Nazareth, Jésus a enseigné dans les synagogues de Galilée, suscitant l'admiration et l'adhésion, car, écrit Luc, tous l'en glorifient. Il est manifestement un rabbi inspiré. L'attente est donc grande à Nazareth lorsque Jésus rend au servant le livre du prophète Ésaïe dont il vient de lire un extrait. Quelle va être son interprétation de ce passage fort connu de l'Assemblée ? Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la prédication de Jésus est remarquablement courte. Une seule phrase. Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'est tout. Mais tout est dit. La suite du récit que vous pourrez lire présente une double réaction. D'une part, une grande sensibilité à ce que cette parole ouvre, et puis aussi un grand étonnement. Mais n'est-il pas le fils de Joseph ? Se demandent les auditeurs. C'est cette question que Jésus prolongera en reprenant la parole, et cela se terminera assez mal puisque les gens de Nazareth voudront le tuer. Cependant, ce n'est pas cette question de savoir ou de croire qui est Jésus que je vous propose de méditer ce matin. C'est ce que Jésus dit en commentaire du passage du livre d'Ésaïe. Ce passage d'Ésaïe est très connu à la synagogue de Nazareth. Il fait partie de la grande fresque finale du livre d'Ésaïe, une suite de prophéties sur le rétablissement de Sion, de Jérusalem. Un encouragement parce que lorsque ce chapitre est cette collection de prophéties sont rassemblées. C'est au retour de l'exil de Babylone à Jérusalem et ce retour est très difficile. Les exilés revenus et ceux qui étaient restés à Jérusalem, leurs descendants, ne s'accordent pas du tout. Les premiers, les exilés, sont considérés comme des usurpateurs et les seconds, qui les descendants de ceux qui étaient restés, comme s'étant trop éloignés de la foi et de l'alliance. Et c'est un véritable effondrement de l'espoir qu'avait suscité ce retour, un effondrement face auquel le prophète, ceux qu'on rassemble sous le nom d'Ésaïe, introduisent aussi bien des mises en garde contre l'injustice que, voilà, ces prophéties de l'éclat d'une restauration dont l'Éternel serait l'architecte. Une restauration au bénéfice de toutes les nations. Lorsque Jésus lit ce passage à la synagogue de Nazareth et en fait ce bref et intense commentaire, le peuple d'Israël vit sous l'occupation romaine Et si le temple de Jérusalem a été splendidement reconstruit, c'est Rome qui brille de tous ses feux et impose au monde méditerranéen sa paix, une paix armée, militaire. Le rétablissement du peuple d'Israël n'est pas réalisé. Alors l'espérance bouillonne en son sein, l'espérance d'un Messie qui pourrait enfin accomplir ce que l'on entendait dans la prophétie d'Ésaïe. Mais Rome veille à maintenir une domination sans partage. Et nous lisons aujourd'hui cette bonne nouvelle en ces jours d'une actualité remplie de sang, de larmes, de vengeance et du fracas des armes. Parce que c'est quand même une bonne nouvelle. Mais comment ? Il y a des captifs, des pauvres, des aveugles et des opprimés. C'est à eux que pensait Ésaü. C'est pour eux que Jésus le Christ parle, agit, vit. C'est eux que nous avons en tête. Des hommes, des femmes, des enfants. Pas des catégories, mais des personnes qui vivent, qui éprouvent une expérience d'altération de leur humanité, une contrainte, un amoindrissement, un empêchement d'être et de vie, un manque de clarté, un manque de liberté, un manque de confiance, un manque de reconnaissance. Il y a des captifs, des pauvres, des aveugles, des opprimés. Et également en chacun de nous, des parts aveugles, captives, opprimées, pauvres, c'est-à-dire nécessitant une aide venant d'ailleurs que de nous-mêmes. Jésus le Christ ne se lance pas en quête de coupables à qui demander des comptes. Mais par sa prédication, il annonce que ces situations ne sont pas des fatalités et que ce n'est pas la peine d'attendre d'hypothétiques jours meilleurs dans un futur indéterminé. L'année de grâce a commencé. Ce n'est pas pour plus tard, c'est pour maintenant. Et nous y sommes encore, toujours. Année de grâce ou de faveur, de bienveillance, de réconciliation, d'accueil. Le terme grec ouvre large et il ouvre à tous. Certes, l'ancrage est celui de l'année du jubilé, tel que l'a prescrit le livre du Lévitique, c'est-à-dire la remise des dettes, la remise des peines, l'affranchissement des esclaves, la fin de l'exploitation d'autrui. Il est question dans la prédication de Jésus de libération, de salut. Entrer dans l'année de grâce qui s'est ouverte, c'est accueillir la libération et le salut venu de l'Éternel. Cela entraîne une transformation de celles et ceux qui en bénéficient, une transformation intérieure dans les situations de vie qui sont les leurs, quelles qu'elles soient. La suite du récit, toute la suite de l'évangile de Luc, l'ensemble des écrits du Nouveau Testament témoignent que cette année de grâce n'est pas réservée à quelques-uns seulement. L'évangile est à destination et au bénéfice de l'ensemble des humains. Ce que les auditeurs de Jésus à Nazareth et ailleurs, comme bien d'autres par la suite des siècles, ne sont pas disposés à accepter. Ce qu'annonce Jésus, c'est un débordement de grâce, une bienveillance surabondante en excès de toutes les discriminations, de toutes les séparations, de toutes les catégories instituées par quelque régime ou logique que ce soit. Alors, qu'est-ce que l'année de grâce, de faveur, de bienveillance, de réconciliation provoque ? Que sauve-t-elle ? Que libère-t-elle en l'être humain lorsqu'il ne se crispe pas en rejet ? Eh bien, cela libère la bonté, même dans l'obscurité, même dans la pauvreté, même dans l'oppression. Cela libère la bonté de n'être pas, de n'être plus réduit à des catégories qui, même lorsqu'elles sont confortables, relèvent quand même d'une logique de classement et de mérite. Cela libère la bonté d'être bénéficiaire d'une nouvelle chance, d'être relancé dans l'élan de l'existence. Pour le dire autrement, l'année du jubilé devient un temps de jubilation devant l'accomplissement de la grâce, et cette jubilation emporte les divisions que dressent les religions ou les systèmes politiques ou économiques. Entrer dans l'année de grâce transforme le regard posé sur soi et sur autrui et sur les situations humaines. Et la libération de la bonté signifie que chacun de nous est rendu capable d'être bon, d'être bienveillant et d'agir en faveur d'autrui. Ce qui se passe dans l'accomplissement proclamé par Jésus le Christ à Nazareth, c'est que dans l'aujourd'hui où nous l'accueillons dans notre existence, le bien, le bon, enfoui en nous sous des couches de douleur ou d'indifférence, sous des strates d'égoïsme et de pensées de clan, sous des blocs de peur et de croyances paralysantes, ce bien, ce bon, est libéré. Et je ne peux m'empêcher de penser ici au titre d'un chapitre du livre de Denis Guénoun qui nous rassemblait ici jeudi dernier. Ce chapitre est intitulé « Libérer le bien ». Le bien, le bon étouffé dans la pauvreté où l'humain est dévalorisé par les regards portés sur lui. Le bien incarcéré dans les captivités dont l'humain n'est pas toujours conscient. Le bien obscurci dans l'aveuglement de raisonnements étroits. Le bien écrasé sous l'oppression des pouvoirs d'injustice. Le bien est libéré et la source du bon est ouverte en chaque personne, accueillant et entrant dans l'année de grâce. C'est ainsi que la prédication de Jésus à Nazareth est porteuse d'une espérance qui en même temps met au jour et dépasse ce qui est, une espérance qui déplace dans une nouvelle manière d'être, dont les centres de gravité sont la justice, la reconnaissance, la bonté. La grâce, la faveur, la bienveillance venue de Dieu font naître en celui, en celle qui les reçoivent, une confiance en soi, qui n'est pas l'affirmation d'un ego dominant, mais une confiance en soi qui correspond à la remise, au dépôt de l'inquiétude pour soi, et une confiance en soi qui est désir de devenir, qui est responsabilité d'être là dans une singularité qui n'a pas besoin de s'imposer à qui que ce soit. Alors en conséquence, c'est un peu l'autre phase de la libération du bien et du bon. Nous pouvons comprendre que nous ne sommes pas impuissants. Nous ne devenons pas puissants, ce qui n'est pas forcément souhaitable d'ailleurs. Mais nous ne sommes pas impuissants. Nous pouvons être bons. Nous pouvons faire du bien. Nous ne sommes pas impuissants et réduits à rien dans les temps d'aveuglement ou d'oppression, ces temps obscurs où l'on ne distingue pas encore comment la paix pourrait se frayer un chemin sous les pluies d'obus, sous les vagues des offensives armées, au travers des haines entretenues en Israël et en Palestine, en Ukraine et en Russie et dans d'autres bien lieux où se poursuivent des conflits oubliés. Si nous ne pouvons rien faire là-bas, nous pouvons être ici et maintenant des signes de grâce et des acteurs de bonté, des artisans de paix. Nous pouvons faire du bon et du bien. Et c'est cela qui est mobilisé par la confiance et l'espérance, par la foi en ce bon dont la source est ouverte en nous, par la foi en ce oui divin qui acquiesce à notre être dans le monde, un acquiescement qui n'est pas l'approbation de tout ce que nous faisons, mais qui inspire notre être pour la vie. Dans les Écritures, le bien se fait, la justice se pratique, la bonté se met en œuvre, et cela commence pour chacun dans l'accomplissement proclamé par Jésus le Christ, un accomplissement qui nous saisit, qui nous soulève de l'intérieur et nous transforme en hommes et en femmes capables de bonté, capables de faire du bien là où nous sommes. Si nous ne pouvons rien faire là-bas, où la haine, la violence et la déshumanisation de l'autre hurlent en couvrant encore toute autre voie, nous pouvons tenir ici notre position d'humain, en résistant à la propagation de ce qui altère l'humanité des humains autour de nous et le nôtre. Les images atroces qui sidèrent la pensée, les injures et les invectives qui empêchent le dialogue, l'essentialisation des uns et des autres, les simplifications outrancières, tout ce qui nourrit la haine et la violence, nous pouvons rompre les spirales de violence. Pas d'une manière générale pour tous, partout, tout de suite, mais là où nous sommes. Nous pouvons rompre les spirales de violence, et d'abord en nous-mêmes, puisque toute violence suscite la nôtre. Nous pouvons ne pas laisser libre le champ à la violence tout autour de nous, mais faire place, insister pour faire place à du bon, à du bien, à l'humanité en fraternité. Je parlais cette semaine avec la rabbin Florian Chinsky, que nous avions reçue au mois de juin. Et elle me disait, « Eh bien, il y a tant de sang qui coule là-bas. Peut-être ici, peut-on donner son sang pour sauver des vies, pas celles de là-bas, mais déjà des vies ici ?» Et ce n'est pas abandonner à la fatalité ceux qui sont là-bas, dont le malheur nous accable, pour lequel notre compassion vibre, auquel nous ouvrons notre prière. Nous pouvons tenir notre position d'humain en faisant du bien ici et maintenant. Celui qui est à notre portée, à cause du mal qui est fait là-bas et contre lequel nous ne pouvons encore rien, nous pouvons répondre ici par la bonté. Et le faire en humilité parce que nous sommes conscients qu'il y a en nous des parts aveugles et pauvres. Et le faire également en confiance parce que nous sommes entrés dans le temps de l'accomplissement des promesses de libération, de guérison et de grâce. Ces promesses ne prennent pas fin. Elles n'ont pas de date limite. Pour le dire autrement, la fidélité de Dieu n'a pas de durée déterminée. Et nous pouvons nous appuyer sur cette fidélité dont Ésaïe et d'autres prophètes étaient déjà témoins. Le malheur, les catastrophes, les épreuves ne sont pas les seules caractéristiques ni les seules composantes d'aucune existence humaine. Pour ceux qui écoutent la prédication de Jésus à Nazareth, la grâce est le point d'appui de l'existence. La grâce dont la bienveillance, la faveur, la réconciliation sont des formes particulières, existentielles. Alors oui, il y a de l'espérance, des possibilités de vivre autrement qu'en se laissant aller à la violence et à la haine, à la vengeance et à l'esprit de clan ou de nation ou de religion ou de n'importe quel groupe. Nous sommes capables de faire du bon, de faire du bien, pour affirmer là où nous vivons qu'il est possible de vivre autrement que dans la brutalité, la rancune et l'injustice. Parce que cette écriture est accomplie et que l'année de grâce de la part du Seigneur a commencé. Amen.
Thank you.
C'est le moment de confesser la foi avec cette confession qui vient des États-Unis, d'un pasteur de l'Église unie du Christ. Je vous invite à vous lever. Dieu est amour, créativité cosmique présente partout et en tout. Il oriente avec douceur vers le bien. Nous élevons nos cœurs vers l'amour avec une ferveur émerveillée. Jésus a incarné l'amour qui est Dieu. Il a aimé les pauvres, les malades, les exclus, les infréquentables. Il a même aimé ses ennemis. Il a tellement aimé, il a aimé si dangereusement que cela lui a coûté la vie. En tant que chrétien, nous voulons servir notre prochain avec simplicité, comme lui l'avait, et dans cette communion avec les autres. Ressusciter sa vie d'amour. Les textes et les traditions du christianisme expriment l'élan de nos âmes qui nous pousse à nous entraider les uns les autres avec compassion. Dans toutes les religions, c'est l'amour qui indique ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas l'être. C'est pourquoi nous prions pour qu'un Saint-Esprit de discernement renouvelle notre foi dans les temps et les lieux où nous vivons. Amen. Prenez place. Dans les annonces de ce dimanche, la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge, et ce sera encore dimanche prochain et chaque dimanche. La liste est affichée dans l'entrée du temple. Ensuite, je voudrais, je vous signale, voilà, mercredi 18, le groupe biblique du soir reprendra son activité, ses réunions et entamera un parcours cette année intitulé « Du Shéol à la résurrection ». Donc, si vous êtes intéressé par ces partages, enfin, ces études qui ont lieu à la fois en présence et à distance, eh bien, vous pouvez m'envoyer un mail si vous n'êtes déjà pas dans la liste des participants de l'année dernière. Donc, si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir et je vous inclurai dans le groupe des personnes à qui j'envoie les mails de rappel et les indications. Jeudi 19 à 12h30, la pause spirituelle, comme chaque jeudi, dans le temple. Une heure pour se poser et se relier à soi-même et à d'autres autour d'un texte biblique avec beaucoup de silence, un échange, la prière et un peu de musique. Et puis, en fin d'après-midi, il y aura donc la visite organisée par Fabrice Calais au musée d'Orsay de l'exposition Van Gogh. Il n'y a plus de place. Le groupe est au complet. J'enverrai 2 jours avant un mail avec le rappel des indications pratiques. Vendredi 20 à 19h30, ce sera la réunion du groupe des jeunes adultes, à peu près 25 ans jusqu'à à peu près 35 ans. Un groupe qui se réunira vendredi autour de quelque chose à partager pour manger, et puis aussi autour de la charte du foyer de l'âme, celle qui est affichée en grand sur la porte du temple. Je le rappelle parce que des fois, il y a des gens qui ne la voient pas. Mais c'est là que nous essayons de dire un peu qui nous sommes. Et donc, c'est sur ce texte que nous nous réunirons vendredi soir avec les jeunes adultes. Samedi 21, je rappelle la journée du christianisme social. Il y a des cartes sur les tables au fond du temple pour s'inscrire. Une journée qui est consacrée à la question des biens, du commun, du bien, des biens communs. Cette journée aura lieu à l'IPT. Dimanche prochain, le culte à 10h30, bien sûr, et ce sera notre ami Hervé Oléon Perrin qui l'assurera. Dominique avait une annonce à faire, voilà.
Merci, oui, pour rebondir sur les paroles relayées par Dominique, pour ne pas se sentir complètement impuissant, je vais encore vous demander, faire un appel à un don de vêtements d'hommes. Donc je remercie d'abord toutes les familles qui m'ont donné 5 sacs qui ont été distribués mercredi dernier. Donc je vous rappelle que ce sont des jeunes exilés, mineurs contestés, qui dorment dans le parc de Belleville depuis 3 mois, il commence à faire froid, donc ils ont besoin de couvertures et de vêtements. Merci infiniment, il y a même des gens qui avaient acheté des caleçons, des sous-vêtements neufs, c'est vraiment adorable. Donc merci de renouveler encore et toujours, parce qu'ils ne sont toujours pas à l'abri, malgré les lettres des élus, des habitants, des associations. Voilà. Merci beaucoup.
Oui, vous pouvez les déposer dans l'entrée, de signaler à Teresa ou à moi quand vous apportez quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à partager ? Alors voici le moment de l'offrande. Et vous savez que si le foyer de l'âme est ouvert et vous accueille, eh bien c'est aussi grâce à ce geste-là de l'offrande qui nous permet d'assurer les charges et l'ouverture de ce lieu et la solidarité, de manifester une solidarité avec l'Église tout entière. Pendant cette offrande, je vous invite à chanter le dernier cantique de ce culte, qui est le numéro 267, « Adorons tous le Seigneur », nous le chanterons en entier, les 3 strophes. Et nous nous levons pour chanter. Asseyez-vous. J'avais oublié de signaler les confitures qui sont disponibles à la sortie du culte. Nous nous rassemblons dans la prière d'intercession, une intercession qui est la prière proposée par l'Église protestante unie de France. Et certainement dans d'autres paroisses, cette prière portera l'intercession. À Dieu, montent les cris de celles et ceux qui souffrent, qui pleurent un être aimé, qui cherchent un proche. À Dieu, montent les pleurs de terreur, de douleur, d'angoisse. À Dieu, monte la révolte devant la barbarie et l'inhumanité. À Dieu monte la colère devant l'humiliation et le refus des droits des humains. À Dieu monte le désespoir devant la course vers l'abîme, l'embrasement du conflit, la contagion de la haine. Éternel, entends ces cris, ces pleurs, ces sentiments mêlés. Ces élans contraires. Vers toi, nous nous tournons. Tu sais ce qui nous écrase et le sournois désir de vengeance qui rôde et le poison de la violence qui contamine. Éternel, nous déposons tout cela devant toi. Ouvre, malgré, à travers l'horreur, le chemin de la vie et de la justice, de la réconciliation et de la paix. Raffermis et encourage les artisans de paix, de dialogue, de modération. Ceux qui parlent vrai. Permets que les colombes échappent au faucon. Toi qui, en Jésus le Christ, as ouvert le chemin de la vie à travers la mort, ouvre-le ce chemin de vie pour tous les habitants d'Israël et de Palestine, les Juifs, les chrétiens, les musulmans, les athées, pour eux tous, pour d'autres peuples encore. Fais de nous des ouvriers de paix. Nous sommes petits, mais capables. Inspire-nous les gestes et les actes à mettre en œuvre aujourd'hui, là où nous sommes, pour construire une paix dans la justice. Oui, c'est à toi que nous disons ensemble, à voix haute ou dans le cœur, la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation. Nous chanterons ensuite le dernier spontané avant la bénédiction. Le règne de Dieu n'est pas loin, il est là, à portée de notre regard, de nos mains, de notre cœur. Et il s'écrit avec des mots d'évangile, le mot « paix », que la paix soit avec vous, le mot « amour », aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et le mot « pardon », Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Amis, frères et sœurs, l'Éternel nous bénit et il nous donne de devenir bénédiction, signe de vie et de paix pour ceux qui nous entourent. Il nous encourage. Allez en paix. Amen.